Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 10 septembre 2024. Vous écoutez le deuxième épisode de la saison 8 de Sneak On Air. Sneak On Air, la première et la seule émission 100% sneakers au monde de l'AFM sur le 91.9. Animé par toute l'équipe de Sneaker Empire qui met de la culture dans tes baskets. You will not be able to change the channel.
Money's gotta be the shoes.
Shoes,
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 shoes.
You sure it's not the shoes?
Do you know, do you know, do you know?
Yeah, 1, 2, 1, 2.
What up, this is A1, and I'm chilling on Sneak On Air, man. It's the one and only radio show 100% talking about sneakers in the world, hosted by Sneakers Empire. Every Tuesday, 8 p.m. to 9 p.m. on RBS 91.9 FM. Chill, don't sleep.
That's right. Look, Mom, I can fly.
Yo, man, your Jordans are fucked up.
Sneak On Air, épisode 2, saison 8. Quelle est la bonne recette pour les sneakers et sa culture? Faut-il les rarifier ou, de temps à autre, ressortir certains graals? En ce mois de septembre, l'équipementier à la virgule nous a teasé deux grosses rééditions. Tout d'abord la fameuse Dunk Wu Tang, dont on a parlé la semaine dernière, mais malheureusement, nous n'avons toujours pas vu la couleur. Et d'autre part, pour cette semaine, le retour de la Air Max One Pata Chlorophylle. Deux énormes graals pour les collectionneurs. Mais est-ce que ces rééditions font-elles monter la hype ou au contraire, tuent-elles le mythe? Telle est la question que nous allons évoquer pendant cet épisode avec notre invité, notre peut-être futur chroniqueur, Kaoni, qui vient partager avec nous son avis et bien sûr partager avec nous ses custos en fin d'émission. Alors à toutes et à toutes, bienvenue dans ce deuxième EP de la saison 8 de Sneak On Air. Au programme, notre traditionnel qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio, de l'info, de l'actu autour des baskets, les sorties de la semaine, notre débat entre chroniqueurs pour cette semaine et nous aurons l'occasion de parler des releases Pata, la chlorophylle, les anciens, et évoquer avec notre ami Kaoni ses custos et son regard sur le marché de la basket. Mais cette émission ne serait rien sans tous nos potos de Sneakers Empire qui sont avec moi derrière le micro. Vous l'avez entendu furtivement la semaine dernière, mais il n'a pu s'empêcher de venir dire un petit coucou pour la première. Ce soir, il est caché entre un béret et ses lunettes de soleil. C'est l'homme au multi-blaze que vous connaissez tous, Manu, a.k.a. Funky P, a.k.a. Jimmy Bones, a.k.a. le druide. Comment vas-tu, Manu?
Écoute, ça va très très bien, et toi?
J'en ai oublié ou pas des pseudos?
Je sais pas, j'ai pas tout écouté.
Jimmy Bones, le druide,
Funky P
et Funky P.
Ouais, je crois qu'on les a.
Il y a des pseudos, mais on les connaît pas.
Ah ça, c'est vrai qu'il y en a d'autres aussi. Bon,
ça, c'est quand il part en Allemagne. Et voilà, vous l'avez entendu réagir au pseudo de Manu. C'est Krish qui est avec nous dans la place. Salut Krish.
Ça va?
Et toi?
Ouais, deuxième mardi d'affilée.
Yeah. Est-ce que tu signes pour le prochain?
Allez, je suis là. Hein.
Allez, jamais 203. Mais je crois que cette année, on l'aura souvent avec nous dans le studio. Et ça, ça fait plaisir. Vous l'avez découvert et redécouvert dans notre émission Sneak On Air, mais il a le plaisir aussi d'animer sa propre émission. Tous les mercredis, une semaine sur deux, c'est mercredi prochain, son deuxième EP. C'est notre ami Chauve qui a son podcast et tout ça pour les noobs.
Tout ça, tout ça.
Et qui adore bien sûr la basket. Salut Raph, comment vas-tu?
Salut, ça va la forme tranquillement? Et
super.
Toi, ça va?
Ben, génial. Génial, génial.
Première émission s'est super bien passée, donc c'est l'émission pour les noobs. On parle de jeux vidéo et c'est mercredi prochain, 20h-21h.
Ouais, belle c'est équipe, hein, l'émission était très sympa. Moi j'ai écouté des brides et il y a le podcast que vous pourrez écouter comme les podcasts de Sneak On Air sur Spotify et Apple Podcast. Il fait des stories, il fait vivre aussi de temps à autre notre Instagram. C'est Jaime qui est dans la place. Salut Jaime.
Salut Alex, salut
voilà. Et on donnera la parole à tout le monde pour le qu'est-ce que tu portes. Et on va dire bonjour à notre invité Badji, a.k.a. Kaoni.
Bonsoir tout le monde.
L'homme des custos. Tu vas bien ?
Super, je suis en congé, tout va très bien.
Ben, on est ravis d'être avec toi. Parle bien collé à ton micro et moi je réglerai le son. Alors, on attaque par le qu'est-ce qu'on porte ? Yes. Ben, Krish, t'es prêt ?
Allez.
Que portes-tu ce soir ?
Que portais-je ? Non, ça se dit pas en français. Je porte
si,
une...
au passé, ça veut dire que tu les portes plus.
Je porte une ZX8000 en collaboration avec Bape. Et j'étais en train de chercher l'année, je l'ai plus en tête.
Presque 3 ans, je crois.
Un peu plus.
Plus déjà ?
Ouais, j'ai l'impression.
Ça va vite. Il y avait un modèle noir et un modèle vert.
Il y avait un modèle noir, un modèle vert. Vert qui était bien vert, quoi. Hein, qui était limite pas très beau.
Très fourré.
Ouais, très, ouais. Et du coup, non, très content de cette collab. Je la porte.
Magnifique.
Souvent. Ouais, très bien.
Ouais,
très,
franchement, très bien. Hyper réussi.
Ouais.
Raph, portes-tu des sneakers aujourd'hui ?
Yes, alors moi aujourd'hui je porte une paire de Jordan, je suis allé revérifier l'année, j'étais pas sûr, de Jordan 1, parce que j'aime beaucoup les Jordan 1. C'est une de 2020, c'est la Japan Midnight Navy, qui est donc de bleu et de blanc avec le swoosh en gris argenté. Assez cool, il y avait un petit pack avec une toute grise, toute silver, qui était très très cool aussi, mais j'ai préféré celle-là perso.
Ouais, t'aimes bien le bleu.
Ouais, j'aime bien, ouais, carrément. Je suis pas au point de Manu qui est creep, mais
Ouais, ça c'est clair.
Eh oui.
Allez, ben il passe la parole à Manu et après on donnera la parole à notre invité.
Je porte une paire qui m'a fait un petit peu bizarre quand je l'ai mise au pied parce que c'est une paire de Nocta. Et la Hot Step Terra, je crois, un truc comme ça, la blanche qui était sortie.
T'es dans la grâce.
Voilà, c'est ça en fait. Le problème, c'est que c'est la pompe de Drake et moi, je suis méga fan de Kendrick. Donc quand je l'ai mise au pied, je me suis dit, je suis un petit peu une petite trahison là. Mais
ouais, mais je suis pas sûr qu'il nous suive aujourd'hui. Je crois qu'il était un peu occupé.
Ouais, c'est ça, il prépare le Super Bowl. Ouais.
Exactement, exactement. Kaoni, que portes-tu ce soir ?
Alors moi, c'est ma paire de Jordan 312 Legacy, une collab avec Don C. C'est ma paire fétiche, en fait. Dès que j'ai un événement sneakers, c'est la paire que je mets, que ce soit un sneaker market ou la radio ou n'importe.
Super. Tu te rappelles où tu l'avais pécho ?
Alors, cette paire, oui, je l'ai achetée en ligne chez Shinzo, Paris.
Yeah, gros magasin.
Gros magasin, très la rue.
De plus en plus,
ouais, ils en ont. Mais, ils ont un store NBA maintenant en plus.
Ouais, très très beau, très très beau shop. Il est avec nous, c'est qu'il est en forme. Entre son travail, ses propres bricolages, ses propres œuvres artistiques, c'est Seb Sneaker, c'est dans la place. Salut Seb.
Salut tous les auditeurs.
Comment vas-tu ?
Ça va très bien. Et
ouais, super. Tu portes quoi ce soir ?
Alors ce soir, je porte une TN premium aux couleurs crème.
Couleur cream.
Pour la pluie, c'est parfait, imperméable et.
Elle marche bien. Ouais, tu te rappelles où tu l'avais pécho ?
Je l'avais pécho en outlet à Ropenay.
Oh, bon prix alors.
C'est ça.
Comme quoi, des fois, il y a des bonnes affaires en outlet.
En plus, taille femme, donc encore plus avantageux.
Yes, tu m'étonnes. Bah voilà, on a fait le tour. Je sais pas si... Jaime, tu veux partager avec nous ? T'as une belle paire de running.
Ouais, effectivement, je porte une paire de running Nike. C'est une Zoomfly.
Yes.
SP qui date de 2018. Le coloris OG, je crois.
Ouais, vraie basket de running. Hein.
Exactement. Ouais, ce qui est sympa, la petite pochette là dans la boîte, fluo.
Ouais.
Avec le swoosh et run à la place de Nike, c'est pas mal.
C'est pas mal. Et voilà, on a fait le tour. Allez, Marie, elle voulait pas partager avec nous.
Attends, parce que tu sais, il faut la présenter.
Marie, c'est le sourire de Sneakers Empire.
C'est le sourire de Sneakers Empire, ça se voit que vous n'avez pas vu la photo que Jovi vient de prendre de moi.
Vous pouvez suivre ça sur notre story Sneakers 67 Empire.
Ouais, non, je voulais pas présenter ma paire, je rentre du travail, j'ai une paire du travail, pas ouf quoi.
C'est quoi ?
Bon, allez, mes petites Vans old school.
C'est un classique quand même.
Mais oui,
ouais.
On en a parlé dans notre émission Wall, c'est une grande classique du skateboard.
Voilà. Mais je suis pas venu en skate, je suis venu en vélo.
T'es venu en vélo, mais pour le vélo, c'est quand même pas mal.
Ouais, pas mal. Ouais.
Une bonne Vans, bien résistante. Et je m'y colle, parce que j'avais pas dit ce que je portais. Et c'est la deuxième Jordan 4 que je porte de la semaine. Et clairement, c'est réédition de cette année. Je porte la Bred, réimaginée, plutôt en cuir au lieu du Nubuck noir. Noir, rouge, une grande classique, hyper confortable parce qu'elle a été retravaillée, beaucoup plus confortable. Et elle a la petite particularité pour les anciens d'avoir le Nike Air au niveau du talon et pas le simple Jumpman. Ça vous va pour le qu'est-ce qu'on porte ?
Ouais.
Tu veux rajouter un truc, Krish ?
Pas du tout, j'ai hâte qu'on parle de la New Balance, s'il vous plaît.
Ah oui, alors,
quand t'as un concert de Michael, donc tu veux y aller en running. C'est exactement ça.
On va en parler dans quelques instants. Je l'ai fait pour kiffer, les gars, franchement. On tease un tout petit peu, mais quand on me l'a montré, j'ai dit non, c'est faux. C'est un fake, et ben en vérité c'est pas un fake.
J'ai aimé, tu vas nous la partager celle-là sur le réseau s'il te plaît.
On va en parler dans quelques instants. Juste sorti aux US, mais tout bientôt ici via Amazon, via tous les bons sites de revente de livres, vous pourrez mettre la main sur le livre qui raconte l'histoire de Peter Moore, une légende de la sneakers, un designer qui a révolutionné non seulement l'équipementier Nike, mais l'équipementier Adidas. C'est écrit par Jason Coles, qu'on a reçu ici dans les studios, qui avait fait un premier bouquin sur Jacques Chassin. Jacques Chassin a participé aussi à ce livre et a écrit pas mal de choses sur Peter Moore. Et Tinker Hatfield a aussi partagé quelques lignes dans ce bouquin qui va retracer vraiment tout le travail de Peter Moore, qui est le designer de la Dunk, qui est le designer de la Jordan 1 pour ses plus connus, mais surtout il est transféré, ou il est parti chez le grand concurrent de l'époque, chez Adidas, pour atterrir à Dettwiller et lancer toute la gamme EQT Equipment de chez Adidas, et c'est comme ça qu'a eu lieu ce grand transfuge. Et si vous voulez en savoir plus sur Peter Moore, vous pouvez aussi regarder le film, je crois qu'il était sur Prime Video, qui retrace la signature de Michael Jordan chez Nike en 1985. Vous avez suivi cette actu littéraire pour une fois sur la sortie du bouquin, vous en attendez quelque chose ? Ou pas du tout?
Si, en fait, ce qui est intéressant, alors j'ai pas rencontré Peter Moore, mais on a la chance de parler régulièrement à Jacques.
Il est mort, hein, Peter.
Oui, non, mais je disais que. Mais il est con. Avant sa mort, tu pourrais l'avoir rencontré. Bref. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu discutes avec des gars comme Jacques, ils ont toujours des anecdotes, tu vois, sur une rencontre, sur une paire, sur un truc qui s'est passé chez Nike, chez Adidas. Et c'est ça qui est cool. Donc s'il y a des petites infos croustillantes, c'est intéressant.
Il y en a plein. Et Jacques, je crois qu'il viendra peut-être dans 15 jours, nous fera, on parlera du bouquin et peut-être qu'on invitera de nouveau Jason. Et on avait des magnifiques traducteurs lors du dernier EP avec lui. On remettra ça en place pour parler de ce bouquin. Sneaker Légende, ça sort aux éditions Rizzoli, bouquin sur Peter Moore. Et là, c'est de la vraie culture basket. Si vous êtes un petit peu excité, si vous voulez, on peut tout de suite commencer par l'actu des baskets et attaquer, si vous avez envie, par cette magnifique New Balance 1906, loafer métallique silver. C'est le coloris que je vous ai choisi. On est sur une semelle de 1906, sauf que, alors est-ce que c'est le designer, est-ce que c'est New Balance qui a pu influencer ça ? On a un upper. Donc un dessus de chaussure, une empeigne.
Comment s'appelle la paire de Michael Jackson ? C'est quoi cette marque qui portait là ? C'est la paire de noir.
Putain, Manu, t'as pas la réponse.
C'est Weston.
C'est le Weston, ça s'appelle Weston.
Je sais pas du tout si c'était des Jean-Marie Weston. Je sais pas du tout.
Weston ou Paraboot, c'était les grandes marques de mocassins.
C'est sûr que Michael, il a un running à faire, il met celle-là, c'est sûr.
Ça, c'est clair. Donc on parle de quoi ? D'un mocassin. Ouais, vraiment, d'une forme de mocassin, nous ne rigolons pas. Vous écoutez bien Sneak On Air, on parle de basket. Et bien, un mocassin développé par New Balance sur la semelle d'une 1906. Alors, mes amis, je vais vous poser la question. Qui est la cible de ce genre de choses ? Je ne comprends pas. La première fois, et c'est mon épouse Aurélie qui me l'a montré.
Moi, je sais, mais je pense que s'il y a des Parisiens qui nous écoutent, ils vont
être vénères.
Moi, je pensais pas aux Parisiens.
Ah, moi je pense à un t'sais, bobo parisien.
Ça va trop marcher là-bas.
Tu vois, sérieux.
Ouais, ouais, dans le Marais.
C'est pour les Algériens aussi.
Ouais.
Non mais ouais, je vois bien. Je vois tout à fait. Ouais, je vois tout à fait le.
En fait, je vois
bobo,
trop comment elle peut être portée cette paire. Et ça me fait chier.
Pour moi, on est vraiment sur un coup de pub, vous croyez pas ? C'est une paire qui va faire beaucoup parler. Ce qui m'interpelle, c'est la date de sortie. 16 septembre pour mettre des mocassins.
Ouais, ouais.
Eh mais maintenant, quand tu vois comment les gens s'habillent. Ouais.
Et ils sortent des colorways vifs en hiver, foncés en. Ouais, là-dessus, il n'y a plus de.
Ce sera sans moi en tout cas.
Ouais, c'est moche, hein.
Très.
Hein, c'est moche. Je pensais qu'il y avait Nico, que Nico serait là et on l'embrasse très fort.
Non, mais je pense que tu vois, en fait, c'est ça qui est énervant, c'est que à un moment ou à un autre, il faut que les gens restent en fait là où ils sont. C'est-à-dire que les mocassins restent dans la famille des mocassins et les running ou les paires de baskets restent dans la famille de baskets. Arrêtez de faire, tu vois. Et après, ça devient.
Arrêtez ça.
Arrêtez ça. Et après, on arrive à, tu sais, à pizza ananas, tu vois. En fait, ça part de là.
Exactement.
Ça part de là.
C'est un dérivé.
C'est un dérivé. Ouais, franchement, alors. On a vu des collabs entre Adidas, Gucci, mais sur une sneakers ?
Sur une Samba, sur une Gazelle, pardon.
Ah, Marie a dit que ça va marcher. Mais oui, ça va marcher. On le sait. Mais c'est ça qui est dégueulasse. C'est que tout peut marcher maintenant. Tout.
Bah écoute, je sais pas si ce sera en vente chez nos amis d'Impact, mais en tout cas, si certains revendeurs, magasins peuvent nous faire un retour.
160 balles.
160 balles. Bon, on est sur le prix d'une 1906. Hein.
Ouais, mais un mocassin 1906.
Un mocassin. Non, mais même. Comment tu peux te projeter là-dessus, même le jour de ton mariage, tu vois ?
Moi,
je capte
pense
pas.
Que ça va bien marcher sur le marché asiatique. Je sais pas pourquoi, mais...
Moi, je te dis même le marché parisien avec un espèce de baggy qui s'arrête au niveau des chevilles et hop, c'est réglé.
Oh là là. Ouais, je vois le genre. En fait, c'est un peu... ça remplacerait une Doc Martens basse que tu portes avec un baggy un peu court. On voit tes chaussettes.
Ouais, le baggy au niveau de les...
s'arrête un peu au-dessus de la cheville.
Au niveau de la cheville, tu vois. Donc, ceux qui mettent des mocassins à glands, des trucs comme ça, ou qui mettent de temps en temps des 1906, bah là ils ont le mix des deux, tu vois.
Ouais, le mix match des deux, ouais. Tu vois.
Donc ça va marcher. Ça va être dégueulasse, mais ça va marcher.
Pour ceux qui suivent les bonnes sapères, t'as un gars qui porte toujours des chaussures un peu cheloues comme ça. Peut-être qu'il serait client en tout cas.
Il a être hypé de ouf.
Ouais, c'est Abou Sega, exactement, Sega. Et ouais, c'est peut-être son style, en tout cas, ici on n'a pas trop validé. Hein.
Nico qui dit Mocha Chiotte.
Mocha Chiotte, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà pour cette première sortie. La deuxième, c'est une troisième collaboration avec Pace Minusom sur une Nike Air Force One, la plus connue, ouais, la Paranoise, et cette fois-ci c'est la Paranoise 3.0. La première était quasiment identique, il y a que la virgule finalement qui change de couleur entre la première et la troisième. Là on est sur une virgule extérieure violette et une virgule intérieure jaune, et le modèle entre les deux était une blanche. C'est la troisième et elle a surtout la particularité d'avoir cette matière noire à l'extérieur qui est assez rigide, que tu vas pouvoir gratter pour faire apparaître un tag qui reprend un petit peu tout l'esprit de Paranoise. Très franchement, moi j'ai réussi à avoir la toute première paire ultra quali, des magnifiques lacets bien plus éplés, des bijoux de lacets qui sont rajoutés, plein de détails, et on retrouve ce côté un petit peu street une fois que tu l'as gratté, avec vraiment l'écaille de noir va partir et laisser apparaître plein de tags et de trucs assez jolis sur la paire. Moi franchement j'aime bien, mais quel intérêt de faire un modèle 3.0 peut-être pour contenter ceux qui n'ont pas eu les deux premiers.
Ouais,
c'est une Air Force One low, quoi.
Ça a marché, pourquoi ça marcherait pas en sortant une troisième qui sera quasiment pareille. T'as ceux qui ont les deux premières qui vont vouloir compléter la collection, et t'as ceux qui n'ont pas eu qui vont se dire j'ai peut-être une troisième chance.
C'est mignon, et franchement il n'y a pas des milliards de baskets où il y a un travail comme ça, et là vraiment c'était un nouveau procédé de chez Nike. Je sais pas si vous vous rappelez que vous faisiez ça, c'est tu fais une feuille très colorée et après tu imprimes, enfin tu mets du noir dessus, et après mes enfants ils font ça, ils prennent un petit cutter et ils vont commencer à gratter le noir pour laisser apparaître la couleur qui est en dessous, et on est exactement sur le même principe sur cette Paranoise. Bon, Air Force One low, ça cartonne, surtout là chez les jeunes. Je pense que ça peut marcher. Ça a pris un peu de prix, hein. On est à 200 balles.
Un peu cher.
Ouais, ça sort le 14.
Ah, mais il n'y a que nous qui regardons le prix. Les nouvelles générations, ils n'ont rien à faire.
Ouais, tu penses. Ouais, quand ils la veulent, ils la veulent.
C'est ça.
Ils la veulent. T'es un peu plus client, Badji ?
Colo. Alors, sur la Air Force, ouais, c'est plus ma cam. Mais là, j'ai un petit souci sur le coloris, en fait. Les 4 souches. On a du vert, du jaune, du bleu, du rose sur un fond noir, je suis pas convaincu. C'est une paire qui est pas évidente à associer, je pense,
ouais,
avec ses habits.
Ouais, ouais, il y a alors...
Et une petite spéciale aussi pour la mid-sole, là, les 2-3 coups de pinceau, je suis pas fan non plus.
Ouais, et ça fait très dessiné en fait.
Ça ressemble à ce que je fais dans ma cuisine avant que j'enlève le scotch masquant.
Le taper.
Voilà, exactement.
Et ben on va en parler, ouais.
Et puis je trouve que le prix pique un peu là, 200 euros pour une.
Ouais, elles étaient sorties quand même à des prix un peu plus élevés que la Air Force basique.
Ouais, souvent t'as des premiums qui sont commercialisés à 139, donc là je trouve que c'est pas donné.
C'est pas donné. Vous voulez réagir là-dessus ?
Pas spécialement.
Pas spécialement ? Ok. Eh ben, on passe à la dernière. Et ça, j'embrasse Emeric. C'est lui qui me l'a poussé parce que très franchement, je l'ai pas vu passer du tout. Et je suis un peu tombé sur les fesses parce que je trouve que ça ressemble pas à New Balance. Je vous parle d'une collaboration entre New Balance sur le modèle 990 V6, c'est celui qu'ils font évoluer, c'est celui de 2024 qui est sorti, qui est en collaboration avec la marque italienne que moi je ne connaissais pas, Loro di Piana. Et là, on est vraiment sur un produit ultra, ultra premium. C'est une marque luxueuse, donc bien sûr, cette maison, attendez, j'en perds mes mots. New Balance, marque de Boston, made in USA sur cette New Balance, et là s'associe à une marque ultra luxueuse, Loro Piana, qui est une entreprise de prêt-à-porter spécialisée dans la fabrication de tissus, et généralement c'est considéré vraiment comme un des plus grands fabricants de cachemire au monde. Et c'est la première fois que cette firme italienne va collaborer sur cette New Balance 990 avec que 1000 exemplaires de revendus, mais un prix retail qui va beaucoup beaucoup piquer. C'est sorti il y a quelques jours dans un pop-up store, ça va ressortir un petit peu plus tard chez New Balance. Tenez-vous bien mes amis, tiens-toi bien Nico si tu nous écoutes, on est à un prix de sortie de 1500 euros. Alors, on est sur des matériaux premium, on est sur du travail fait à la main, on est sur un nombre d'exemplaires très limité, il y en aura 1000. C'est sorti que dans des pop-up stores, mais là, vraiment, on commence à atteindre des tarifs pour des baskets.
Juste pour comparaison, la Dior, la Jordan 1 Dior, c'était combien ?
1007, ouais.
Ok.
1007, et dans le truc, il y avait aussi la... Adidas Human Race avec Chanel qui était à 2005 peut-être.
Ouais, je crois que c'est ça.
C'était ça, c'était 2005. Ouais.
Et dans mon souvenir, tu vois une Adidas Gucci sur la Gazelle et la
Torsion. 800 balles.
Ouais, on était à 800 quoi. Ouais, on était quand même un peu.
Non mais après, une fois que tu es au-dessus des 1000.
Voilà. Ouais, mais tu vois, entre Loro Piana que je connais pas et Dior, après je sais pas si. Mais. C'est quand même peut-être pas le même niveau, je sais pas, je connais pas.
Alors,
c'est pas forcément pour moi, c'est pas qu'une question de notoriété de la marque, mais c'est plutôt un procédé, un savoir-faire.
Exactement. Donc
pour le coup, tu vois, moi, Loro Piana, quand tu sais que c'est le leader, l'un des leaders mondiaux au niveau du fabrication et commercialisation de cachemire, ça me parle beaucoup plus que Dior.
Ok.
Tu vois, donc, mais après, ouais, 1500 balles, pfff.
Voilà, alors.
Elle est belle, hein, moi je la trouve jolie, hein, franchement.
Elle est magnifique.
Ouais,
et c'est peut-être plus à destination de clients de cette marque ou de clients très très huppés.
Je sais pas. Hein. Mais ça ressemble quand même bien à une newbie. Hein.
Ah, mais c'est complètement la New Balance.
Ça va être pour les footballeurs. Ça.
Pour aller voir.
Oui,
après,
on est d'accord.
Tout est fabriqué à la main, c'est que des matériaux spéciaux. Mais j'abonde tout à fait dans le sens de Krish. Là, tu t'associes plus à un savoir-faire et un procédé industriel de fabrication sur ces matériaux que sur une marque de luxe où tu payes aussi la notoriété de la marque.
Ah ben, Dior, c'est clairement ça.
En plus du produit. Voilà. Mais on est vraiment sur un travail de manufacturier, de cuir, d'empiècement, de coudre à la main, etc. Alors, moi, je trouve que c'est assez génial et ça fera peut-être le lien parce qu'on va très vite parler de... parler de ton travail, Kaoni. Voilà, on revient vers le manuel avec le travail d'avoir un artiste qui a travaillé sur cette paire. Voilà un petit peu, si quelqu'un d'autre veut réagir sur celle-là. Sinon, je vous propose, pour la demi-heure qui nous reste, de passer à la deuxième partie de notre émission, où j'ai eu envie de parler, évidemment, de la sortie, comme la semaine dernière, de cette Pata Chlorophylle, en revenant sur les plus belles collabs de Pata en Air Max One, et bien sûr, parler de ton travail. Et si vous êtes d'accord, ben, je préférerais qu'on commence par parler de toi, Kaoni, de ton travail et puis après glisser sur cette Air Max, parce que dans ton travail, il n'y a pas beaucoup de running et pas des masses d'Air Max.
Non, pas beaucoup de running, c'est vrai. Peut-être pour une question de durabilité, parce que tu sais que pour moi, c'est très important pour le custom, pour les clients aussi. Je pense aussi que le custom, c'est un achat plaisir qu'on a peut-être moins tendance à porter, honnêtement, pour faire du sport. J'ai fait des paires pour des danseurs. Là, ça peut se comprendre. C'est des gens qui sont très attachés à leurs sneakers. Pour le running, honnêtement, elles vont prendre vraiment cher.
Après, je pense aussi que tu sais, il y a une notion de sur du b-ball, tu vas assez facilement retrouver des paires en cuir, alors que sur du running, qui est essentiellement sur des paires en tissu. Ouais. Donc forcément, je pense que pour la
très
custo,
ça limite un petit peu le travail, même si je touche au tissu, mais le tissu, ça va plus être une mise en couleur. Tu pourras moins te faire plaisir au niveau des motifs, au niveau des inscriptions.
Ouais, les détails sont différents.
Des détails, ouais, ouais, tout à ouais. fait. Par contre, l'avantage, c'est que ça tient très bien sur du cuir. La peinture Angelus a un médium que tu mélanges pour attaquer tout ce qui est cuir, canevas. Et du coup, il n'y a pas de craquement du tout. Mmh. Si tu veux, la fibre va complètement boire, s'imprégner de la peinture. Et contrairement au cuir, au nubuck, tout ça, la durabilité est vraiment top. Mais pour tout ce qui est pièces, agencement plastique, tissu, couche l'une sur l'autre, ouais, le running, c'est pas forcément nos paires de prédilection.
Oui, et c'est pour ça que sur du running, tu vois, comme par exemple Charles Julien qui en fait aussi un petit peu, lui, il va enlever l'empiècement et remettre un autre
emplacement, tout à fait, ouais, ouais.
Plutôt que essayer à se galérer, à essayer de teindre un truc qui est inatteignable. Comment t'es tombé dans la basket ?
Alors moi, c'est via le basket, tout simplement, que je pratiquais gamin. Le mythe de Michael Jordan. Les basketteurs apportent tous une importance à leurs chaussures. Il y a une petite part de mythe. On a l'impression que ça participe à la performance quasiment. Donc moi, c'est comme ça que je suis tombé dans les baskets.
Ouais, quand t'étais jeune.
Très jeune, j'avais 8-9 ans. Et un petit peu par frustration aussi des modèles que je ne pouvais pas avoir, qu'on m'achetait pas à l'époque. Hein.
Et comment est née l'idée de customiser ? Est-ce que t'avais déjà un attrait à réaliser des œuvres artistiques ? Peut-être que tu peignais, que tu dessinais ?
Moi, c'est le dessin. Voilà.
C'est le dessin ?
L'origine, pour moi, je viens du dessin, comme beaucoup de pratiquants du custom. Donc c'est le dessin qui a rencontré la sneakers pendant le confinement. Hein. Donc en fait, tout vient d'une...
T'avais plus de papier, t'avais plus de...
J'avais surtout envie de faire autre chose.
C'est plus sur
j'avais
quoi
une
dessiner
paire de baskets sous la main. J'avais un petit peu anticipé le truc. Et puis j'avais surtout commandé de la peinture Angelus, qui aujourd'hui est... Ça a beaucoup changé en 2 ans, j'ai l'impression.
Ah ouais, ah ouais.
En qualité ?
Pas en qualité, en disponibilité.
Ah ok.
Avant, il fallait que j'aille commander sur un site qu'on ne citera pas, ou chez un commerçant directement à Paris. Et aujourd'hui, grâce à nos amis d'Urban Painters à Strasbourg, on a tout ça qui est disponible
assez facilement. Quoi.
Très facilement, okay. La gamme a évolué. Donc ça, c'est vraiment un plus pour moi, comparé à il y a 2 ans et demi quand j'étais venu. Oh. Les produits sont beaucoup plus accessibles et moins chers aussi.
Mais du coup, est-ce que Angelus s'est vraiment spécialisé dans la custo de chaussures et du coup ont des procédés chimiques spécifiques, ou alors... C'est un peu une marque et on pourrait prendre n'importe quelle autre peinture et c'est pareil.
Il y a une concurrence qui arrive notamment avec des marques françaises. Angelus, ça a été surtout les premiers et ça a été la marque utilisée par les références du custom qui actuellement sont quasiment à 90% sous contrat avec Angelus. Okay. Maintenant, il y a des marques comme Sneakart par exemple qui viennent d'arriver. C'est de la peinture qui est française. Je ne pourrais pas te dire vraiment qualitativement la comparaison parce que je ne les ai jamais utilisées.
Ok.
Le problème, c'est que quand tu commences à avoir une marque et surtout une gamme assez étendue de couleurs, tu as tendance à rester dans cette couleur-là. Ouais. Angelus, ça se mélange très bien. La possibilité de couleur est quasiment infinie.
Okay.
Bon, j'imagine que les autres, puisqu'elles sont aussi utilisées, sont qualitativement comparables, mais le marché est écrasé vraiment par Angelus.
Okay. Ouais, c'est le gros leader carrément. Depuis des
Et on pense, alors, on parle beaucoup de custom, mais il y a aussi toute la partie restauration.
Ouais.
Et dans la restauration, c'est pareil, je pense que les collègues utilisent ça à 80-90%. Hein.
Donc, du coup, il y a quoi ?
Comme la clinique ?
Ok, ouais, c'est ça, ouais. Donc il y a tout ce qui est pour décoller.
Alors, comme autre marque, je pourrais te citer.
Pour restaurer une paire, en fait, reprendre de la peinture Angelus pour combler les écailles
Angelus a sorti en plus des gammes premium qui se marient parfaitement avec les modèles, les best-sellers.
Ouais, parce que j'ai même l'impression qu'il y a une gamme de couleurs.
Exactement,
voilà. Tu vois l'infrared, tu vas retrouver l'infrared Nike chez Angelus.
Et ça, c'est beaucoup plus à destination du restore, donc des gens qui ont besoin de restaurer des chaussures et de trouver exactement les mêmes tons, de retrouver les mêmes couleurs.
Okay.
pour quelqu'un comme moi qui fait du custom à la demande, on crée plutôt nos couleurs.
C'est cher du coup ?
On part sur 6 euros le petit flacon.
Et tu fais combien de... Enfin, t'arrives à quantifier le nombre de paires que t'arrives à faire avec...
Difficile à dire en fonction de tes projets, mais c'est quelque chose qui n'est pas si cher que ça.
Okay.
Non, ça reste, okay. Ça reste quand même très correct puisque ton flacon a une durée okay. de vie assez longue. L'intérêt, okay. c'est d'en avoir plusieurs. Et puis à partir d'un moment où tu commences aussi à les mélanger, ou quand tu travailles à l'aérographe, comme moi, tu utilises aussi beaucoup moins de peinture. C'est une des...
On peut... C'est vrai que ça parle à tous les auditeurs, un aérographe.
Alors peut-être pas l'aérographe, je travaille à...
Non mais on peut expliquer ce que c'est l'aérographe.
Il y a le pinceau donc, qu'on utilise quasiment tous. L'aérographe, là on va se servir de l'air pour projeter de la peinture avec un petit outil. L'avantage c'est qu'on est, y a pas de produit chimique comme une bombe, hein, comme un graffiti.
Mm-hmm.
Donc on peut faire ça tranquillement dans son atelier. Et c'est très pratique pour tout ce qui est dégradé notamment.
Ok.
Et pour avoir un rendu vraiment pro. Avec le pinceau tu peux avoir, parce qu'il faut bien comprendre que chaque couleur on applique à peu près 5 couches. Si tu fais ça au pinceau, à un moment donné, il risque d'y avoir des petites traces, des petites choses. Quand tu es très attentif à tes détails, l'aérographe s'impose vite parce que tu fais des surfaces qui sont lisses, nettes et le rendu est vraiment impeccable.
Ça peut ressembler à un pistolet de tatoueur à peu près.
À peu près, ouais. Il faut relier ça à un condensateur,
ouais.
pour avoir l'air, hein, qui est la source de projection. Et puis ensuite, c'est parti. Hein. Tu glisses ta peinture dedans, tu la projettes. Donc tu utilises beaucoup moins de peinture en fait en volume. C'est un peu comme nettoyer ta voiture au jet d'eau et aller à un nettoyage haute pression.
Ouais.
Voilà, ça n'a plus rien à voir et tu travailles beaucoup plus en subtilité.
Et t'es aussi sur 5 couches avec l'aérographe ?
Oui, le nombre de couches change pas vraiment. Ouais.
Ok.
Ça, c'est pour une question de durabilité. Il faut vraiment que le cuir, que le matériau s'imprègne vraiment bien de la peinture. Et ensuite, une fois que le cuir, aussi l'étape très importante à laquelle les gens ne pensent pas forcément, c'est la préparation.
Ouais.
Donc bien décaper le cuir. Et puis une fois que ça s'est fait, avec Angelus, ça se passe super bien. La durabilité est vraiment top. Ça résiste à la pluie, frottement. On peut laver aussi sa chaussure, ce qui est très très important.
Ouais, parce que pour expliquer pourquoi tu dois nettoyer une paire, en fait souvent je crois que c'est de l'acétone qu'on peut utiliser.
Tout à fait,
il faut
retirer le vernis et voilà. industriel.
Exactement,
qui
est un vernis
pour protéger tout à fait ta paire, pour éviter qu'elle marque trop vite, que les saletés s'imprègnent, pour que tu puisses la nettoyer plus facilement. Pour nous, customiseurs, c'est le cauchemar. Parce que si tu n'enlèves pas bien cette première couche de vernis, tout ton travail après va pas durer. Voilà, ça va craquer, ça va... Tout ce qu'on veut pas voir.
Du coup, ça veut dire qu'une fois que tu as fait ton custom, tu remets du vernis
Et à la fin, on remet une petite couche de vernis. Et ça, c'est aussi très important parce qu'on peut, dans cette dernière étape, jouer avec l'effet final. Tu peux avoir, pour le même custom, un rendu plus mat,
ouais.
un rendu un peu plus satin, plus brillant. Et ça, c'est vraiment très important. Moi, j'utilise beaucoup de ce qu'on appelle des vernis type factory pour que tu aies un rendu type magasin.
Ok.
Voilà.
Qui est uniforme.
Plutôt mat, voilà. Donc vraiment, c'est des paires, on a l'impression qu'elles sortent d'usine. Quoi.
Ah ouais, je crois que ça s'appelle ça un finisher. Quoi.
Un finisher. Alors là, pour le coup, je vais faire une petite entorse. C'est pas Angelus que j'utilise, c'est LK Top.
Ok.
Qui est vraiment le top. Dans le marché, c'est la crème. Ils ont toute une gamme de
Ouais,
de
qu'est-ce
vernis.
Qui a fait que t'as testé les deux, en fait.
Exactement, ça c'est l'expérience. Hein. Faire des paires, marcher avec, regarder ce qui marche, les plier... les balancer, les user quoi, au maximum. LK Top, c'est le must. Même les artistes qui sont sous contrat avec Angelus utilisent du LK Top pour le vernis. Donc, il n'y a vraiment pas photo.
Cool.
Ben ouais. Moi, t'as une question ? Ouais. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton travail, quand je vois passer une story, sans regarder qui a envoyé la story, je reconnais immédiatement ton travail. Je trouve que t'as une patte, une inspiration assez spécifique. Je pense que c'est peut-être pas évident pour toi, mais comment tu la définirais ? Qu'est-ce qui t'inspire ?
Ça, c'est une grande question. Beaucoup
mais je trouve que c'est très marqué, quoi.
Veulent avoir un style.
Ouais.
Quand ça t'obsède trop, tu n'y arrives pas. Donc, je pense qu'il faut tout simplement faire ce qui te plaît, les inspirations que tu as, ta sensibilité font qu'au bout d'un moment, moi maintenant, ça fait 2 ans, et je crois que le style apparaît tout doucement de lui-même. Je crois que c'est le meilleur conseil que je puisse donner.
T'as essayé de t'inspirer ou tu t'es inspiré d'autres custos ?
Alors, je me suis beaucoup inspiré de la technique. Okay. En regardant les grands noms du custom, ce qui est très intéressant pour moi, si tu veux, c'est que dans les stories, c'est pas forcément la basket qui m'intéresse le plus. C'est plutôt le matériel, c'est tout ce qu'il y a sur le bureau. Il y a un gros travail aussi de taping quand on fait du custom.
Donc c'est recouvrir avec du scotch.
Recouvrir avec le scotch, découper au cutter les parties que tu veux mettre en évidence. Donc là, j'ai beaucoup progressé grâce aux réseaux sociaux. Et puis en allant tout simplement poser des questions directement aux différents artistes.
Mais ça va, du coup, entre vous, il y a une espèce d'entraide ou alors tu t'es retrouvé avec des...
Au début, j'avais beaucoup peur de poser des questions
et de pas avoir de réponse. Tous les gars disent qu'il y a vachement d'échanges entre les gars.
Carrément, mais ça, c'est parce que c'est la culture sneaker, je veux dire, c'est comme nous, ici, entre nous. Je crois qu'au final, il y a quand même un amour qui nous réunit. On n'est pas là pour l'argent, à la base, on est là pour ça. Et moi, ça me fait aussi très plaisir quand des jeunes artistes, des gens qui se lancent dans le custom m'écrivent. Et au final, je prends beaucoup de temps pour leur répondre parce que ça fait partie de la communauté.
Ouais, ouais. Je parlais sans être péjoratif d'expérience client, quoi, d'avoir un storytelling, de créer un lien.
Ouais. Il faut savoir aussi que quand tu custom, c'est pas comme le dessin. Moi qui ai commencé avec du dessin où tu prends une feuille, ça marche pas, tu jettes. Là, on est quand même sur des paires qui valent 130 euros. Donc, c'est bien de planifier ton travail. Quand tu fais du custom, de ne pas te lancer tête baissée. Il y a une étape aussi qui est très importante et qui m'aide beaucoup, c'est Procreate sur iPad, qui m'aide, si tu veux, à prévisualiser mes réalisations et à les envoyer aussi à des futurs clients qui veulent toujours avoir un coup d'œil de ce que va être le résultat final.
Ouais, j'ai découvert ça, moi, quand d'ailleurs j'ai vu qu'il y a un custo avec qui j'ai travaillé à Paris dans le cadre d'une activation avec Adidas. Qui s'appelle Black Dessinateur Custom.
Ah oui, c'est un gros custom.
Le mec, en fait, effectivement, il a commencé à me montrer ça et le pré-travail qu'il faisait finalement sur l'iPad.
Qui est absolument énorme, surtout quand on est comme ça dans le manga, sur ce que j'appelle du full custom, c'est-à-dire que là, vraiment, il n'y a plus un centimètre de blanc.
Exactement.
Il faut vraiment prendre en compte toutes les coutures, les couches qui vont s'entremêler pour que des détails importants, comme par exemple les yeux, ne tombent jamais sur les coutures. Parce que ça va être très compliqué là de mettre du détail.
Faut que tu réexpliques.
Alors, la partie simulation design sert notamment à placer ton dessin sur Procreate pour éviter certaines zones qui sont très compliquées à
peindre.
Pour
éviter de retourner chez Tattoo Cover quand on t'a placé le tatouage.
Exactement, pour éviter de foirer ton truc. Et notamment, faire très attention aux coutures. Il ne faut pas placer de détails trop importants, comme par exemple les yeux ou un regard sur les coutures de ton custom. Sinon, ça va être très, très compliqué.
Tu démontes jamais la chaussure pour customiser ?
Jamais. Non, 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 ça jamais. Ça, c'est vraiment la partie bespoke. Moi, c'est acheter la chaussure, la décaper. La partie la plus importante, c'est vraiment la création, de mettre en place ton dessin pour que ça fasse pas trop vide, pour que ça fasse pas trop... Après, ça, c'est une question de style aussi, de custom. Moi, je suis plutôt sur des... Comment dire ? Ça me dérange pas de pas customiser toute la paire.
Ouais.
Voilà, je peux faire la partie externe, l'avant, mais je suis pas dans...
Moi, j'aime beaucoup quand tu refais les contours.
Oui, repasser sur les coutures, ouais.
Ah ouais, ça, je sais pas.
Ça souligne un petit peu la mise en place, exactement.
Ça souligne la truc. Et alors, quand tu dois être en forme de veille, parce que là, t'as parlé d'une Air Force One full white, c'est toujours un investissement. Est-ce que t'es à la recherche de plans spéciaux pour... Parce que si on rajoute le prix retail d'une paire, plus ton temps de travail, ça peut vite faire monter les prix. Est-ce que t'es à l'affût?
Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Je peux pas facturer, si tu veux, en fonction du temps passé dessus.
Ouais.
C'est pas comme un travail horaire où tu vas dire je prends tant et tant de l'heure fois ça. Parce qu'on est sur un achat coup de cœur, on est sur une envie. Les gens ne réalisent pas forcément le travail qu'il y a derrière. Et encore une fois, si je devais le facturer en fonction du nombre d'heures que je fais, ce serait des prix qui seraient vraiment pas abordables. Qui serait vraiment très cher. Et pour me fournir en basket, là c'est vrai que moi je suis toujours collé à Zalando, à Nike App, à l'affût de la moindre promotion, et puis c'est vraiment comme ça qu'on peut faire des bonnes affaires. Hein.
Ouais.
Il y en a toute l'année maintenant,
des promotions. Ça a des petits codes, ça se trouve. Est-ce que tu as tendance à vendre les custos de tes inspirations ou tu réponds aussi de temps en temps à des demandes?
Alors les deux, de plus en plus de demandes.
Ouais.
Pour une partie satisfaction personnelle, j'ai besoin, si tu veux, de faire mes créations, mes custom et tout ça. Mon Insta s'étant pas mal développé maintenant, ce qui marche très bien, c'est tout simplement les gens qui me contactent. On fait ça à distance. J'ai des pairs qui sont partis en Belgique, en Italie.
Voilà, j'allais te demander. Donc maintenant, tu vois, justement,
avec cette étape de simulation sur Procreate, je peux très facilement accrocher des gens et voir si si le custom va leur convenir. Et c'est assez intéressant cette partie où on est obligé de se mettre un peu d'accord, si tu veux, avec le client. Je peux pas prendre un projet comme ça.
Ouais, mais est-ce qu'il y a des trucs que t'as refusé ?
Ça m'est arrivé quelquefois. On me demande énormément de Naruto.
Ah ouais ?
Voilà.
Parce que c'est pas ton univers.
Parce que c'est pas mon univers, même okay. Si techniquement je m'en sens capable, il faut vraiment que j'aime faire ce que je fais pour que le résultat soit bien. Alors moi c'est une génération plus Dragon Ball, j'aime bien tout ce qui est cartoon années 90, de mon enfance. Ah, je t'avoue que Naruto ça me parle moins.
Nous on est chevaliers du Zodiac.
Les chevaliers du Zodiac, je risque de mettre moins de passion dedans et j'ai peur que ça se ressente dans le résultat. Okay. Si tu veux, c'est plus pour ça.
Mais moi j'avais plus en tête des idées un peu farfelues où on t'a demandé, je sais pas, une knacky ball
non.
Sur un truc chelou.
Non, on me demande beaucoup de prénoms.
Qui aurait demandé.
On me demande beaucoup de prénoms, c'est pas ce que je préfère faire.
Ouais, mais voilà.
Des personnalisations comme ça.
Okay.
Kevin.
Voilà, moi je suis un peu plus dans le travail du design. Maintenant, si c'est ce que les gens veulent, ça m'arrive de prendre la commande aussi. Mais je crois que c'est important d'avoir une commande qui te motive,
ouais.
Qui te donne vraiment envie de bosser dessus. C'est important pour que le rendu soit vraiment top et qu'on sente qu'il y ait de la passion.
Ouais, donc si c'est un prénom, voilà, c'est pour dépanner, voilà, je vous le fais.
Ouais, alors par exemple, on m'a proposé au Rive Étoile de faire une animation comme ça de custom live.
Okay.
Le custom que moi je fais, c'est une activité qui te prend beaucoup de temps. Il faut être très minutieux. J'ai refusé parce que je ne me voyais pas faire ça rapidement dans une galerie marchande. Où là, c'est plus toi qui vas proposer des pochoirs aux clients qu'une vraie customisation, qu'une vraie personnalisation. Voilà, ça, c'est des plans comme ça que j'ai refusé, mais plus parce que c'était pas.
Ouais, ce qu'on appelle du custom flash en fait.
Ouais, c'est exactement. Comme les tattoo flash, j'allais dire.
Exactement. Ouais. Voilà, exactement. C'est exactement le même principe que les tattoo flash.
Ouais, tu choisis un catalogue.
Voilà. Moi, j'ai besoin de travailler un petit peu plus. Je suis plus un oiseau de nuit, faire prendre mon temps, les détails. C'est un petit peu plus.
Ouais, comme ça, je prends du plaisir. Entourage.
Comment
vit ton entourage ?
Très bien. Maintenant, on me demande, je fais plein de chaussures pour ma mère.
Ouais.
Non, super. Pas mal de commandes pour les potes, pour les enfants de mes potes aussi. Ça marche énormément pour les enfants qui veulent toujours avoir un produit un peu unique. Hein.
Ouais.
Donc, c'est ça les commandes Naruto.
Là, c'est les grands enfants. Hein. C'est les grands enfants qui ont jusqu'à 20 et quelques.
Vas-y, je veux pas te couper. Hein.
Non, je disais mon
oui, on évoquait avant l'émission en prenant l'apéro, tu disais que le marché de la custom bougeait un petit peu, surtout depuis les difficultés avec le droit, la propriété intellectuelle de certaines marques. C'est quelque chose que tu ressens. On sait qu'il y a Nike qui a attaqué, c'est pas du custom, mais qui avait attaqué Bape pour de la copie, et aussi Soul Surgeon qui est mondialement connu pour la custom. Tu crois que ça fait bouger le marché?
Ça a provoqué beaucoup d'interrogations. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de lire le communiqué de Nike qui a voulu un petit peu mettre de pédagogie, parce que c'est vrai que Nike attaque beaucoup en ce moment. Hein. Des créateurs.
Ils sont en galère de thunes, donc ils essaient de récupérer un peu à gauche.
Dans leur communiqué, si tu veux, moi j'étais rassuré parce qu'ils ont certifié qu'ils n'avaient pas de problème avec le custom 1 pour 1. C'est-à-dire une personne vient te voir avec une paire qu'elle a achetée, tu la customises, tu lui rends. Pour eux, il n'y a pas de souci. Ils ont plus de soucis avec les artistes comme moi qui sortent des collections.
Mm-hmm.
Donc plusieurs chaussures, plusieurs tailles, ou notamment avec les artistes qui essayent d'enseigner le bespoke. Donc là, ça pose un gros problème à Nike, toutes ces académies, même si je ne comprends pas forcément, puisque c'est... En l'occurrence, c'est un artiste avec lequel ils avaient collaboré, qu'ils ont ensuite attaqué.
Bah c'est
je pense
ça,
pas que
fait,
ça nuise et... tant que ça à leur image.
Non, au contraire, je pense qu'ils ont joué de ça. Je pense qu'il y a eu des gros stars de la NBA qui ont porté des chaussures jeunes et qui étaient juste magnifiques. Donc forcément, les gens, à un moment, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont penser que c'est Nike, ils vont se diriger vers le site de Nike, ils vont chercher... Nike sur je sais pas quelle plateforme, sur internet, etc., etc. Et finalement, ça va dynamiser un petit peu tout ça. Ils vont pas retrouver, ils vont se dire vas-y. Donc je pense que c'est un peu hypocrite. Enfin,
je trouve aussi.
Peut-être un peu d'ego mal placé qui dit que ouais, mais regarde, c'est plus chou sur gens qui a du crédit que nous.
Voilà, il y a une part de ça, je pense. Ils veulent reprendre un peu la barre.
Ouais, mais je pense qu'ils auraient pu le faire plus intelligemment.
Ah, ouais, en plus, ils ouvrent les portes. Tu vois, parce que le cuir qu'il va utiliser sous Sir John. Il est clairement pas de la même qualité que le cuir assez bas de gamme.
Je pense que Nike
aussi à cause de la différence.
Peut-être que Nike a une part de responsabilité aussi. On sait que les matériaux sont beaucoup moins résistants. Donc
Et puis tu sais, sincèrement, quand je parle des joueurs de la NBA, etc., etc., quand tu gagnes ce qu'ils gagnent, t'as peut-être pas envie en fait d'acheter une paire Made in Vietnam avec un cuir et un coloris éclaté, tu vois, parce que ça colle, parce que ça coule, pardon.
Et en plus,
il y a des
points
de colle et tout le monde doit. Donc effectivement, je trouve que c'est cool de pouvoir avoir cette expertise de sous-surgeon et de dire, ok, je sais faire avec des matériaux de fou, des cuirs de fou, des peintures de fou. Et voilà, c'est entre guillemets estampillé Nike parce que j'ai leur aval et leur go, tu vois. Donc franchement, c'est très con, quoi. Très con.
Ouais, et puis jamais ils proposent autant de créativité sur une paire.
Alors t'as Nike ID, mais pour l'avoir testé moi-même,
c'est limité.
On est beaucoup plus limité, c'est pas le même univers. Et puis tu peux pas trop toucher aux matériaux, on est plus sur les couleurs, tu peux pas apporter vraiment de motifs.
Oui, l'équivalent du bespoke chez Nike, c'était les Nike Lab, où là tu choisissais sur catalogue des matériaux différents, des choses comme ça. Nike ID, c'est bien en dessous.
Et après, on a la chance d'avoir des designers autour de nous, mais quand je discute avec Pauline ou avec Thomas, donc ils travaillent. Chez Adidas, à Erzo, ils sont aussi limités dans leur créativité. Donc, un autre, forcément, si tu veux une créativité importante sur une paire, bah, il faut que tu puisses aller la chercher ailleurs. Quoi. Donc, ouais, c'est un long débat.
Réaction d'orgueil de Nike.
Ouais, je pense
Il y en a beaucoup.
Complètement.
Il y en a énormément. Et par contre, je ne sais pas si vous me rejoignez, on va peut-être conclure là-dessus, parce que je voulais parler un peu de Pata et que tu présentes ta paire en fin d'émission. Je trouve que la Custo, elle est très orientée Nike.
Ah, énormément.
Tu vois,
énormément. Il y a une paire qui est aussi que les collègues affectionnent, c'est les Stan Smith, parce qu'il n'y a pas de couture, justement. Tu es un petit peu emmerdé par le perforage,
ouais.
Mais le custom, en gros, c'est les Stan Smith et la Air Force One.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Déjà, la plupart des Adidas ou autres, t'as le logo, le sigle ou les trois bandes ou même ASICS, tu prends. T'as tout le logo qui part en plein milieu. C'est sûr, tu prends une Air Force, tu peux tout customiser là. Tu peux peindre dessus easy.
Et puis le côté b-ball qui est aussi très présent chez Nike depuis le milieu 80, quoi.
Ouais, et après effectivement pour discuter avec aussi des gars qui font de la custo, ouais, il y a des chaussures de prédilection qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. La Air Force, je pense que maintenant tu la connais par cœur, je te donne une Air Force les yeux fermés.
Alors ça
rien que sur le toucher, t'arrives à savoir que c'est une Air Force.
À tel point que j'ai repéré des fausses. Si tu veux, il y a une partie de ma clientèle qui achète leur Air Force sur Vinted. Je le répéterai jamais assez, faites très très attention. Une Air Force à 60€, c'est de toute façon une fausse. Une Air Force qui n'a pas de boîte, c'est une fausse. En jetant des coups d'œil aux coutures, au Nike Air à l'arrière, au niveau du talon d'Achille, on peut très facilement éviter de se faire berner, franchement.
Cool. Bah voilà, faut faire gaffe. Et donc on peut te retrouver sur Instagram _Kaoni_.
Exactement.
Et c'est là qu'on peut échanger avec toi, vivre cette expérience client et échanger pour faire monter un projet. Voilà. On va voir, Kaoni, s'il nous reste encore 5 minutes, peut-être vers 52, 53, on présentera ta paire que tu nous as ramenée en tant que sneakers addict non anonyme. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas. Mais j'avais quand même envie, pour ces 5-10 minutes qui nous restent, de faire un petit retour en arrière sur cette collab d'Air Max Pata. Et en plus on a un des fidèles de la Air Max, Jaime, qui est avec nous, parce que pour les fans de la basket, ces collabs avec Pata et Air Max One en running, c'est considérable. Pata, c'est une marque néerlandaise fondée aux Pays-Bas dans les années 90. C'était deux amis, Edson Sabajo et Guillaume DJ Schmidt, il vient peut-être d'Alsace, et eux étaient des grands acteurs importants de la scène hip-hop, qui était encore un peu underground à l'époque. Et très rapidement, ils ont eu, au travers de leur envie de vinyle, de sneakers rares, développé cette marque. Pata, ça veut dire quoi? Et ben, ça a des origines surinamaises, si je l'ai bien dit, qui sont l'origine des deux fondateurs de la marque. C'est un mot d'argot qui veut dire chaussure, qui veut dire godasse en fait. Et ça vient de là, le nom de Pata. Et les premières collabs, elles ont commencé en 2009 pour le 5e anniversaire du magasin, où il a sorti plusieurs modèles, et c'est ce que je voulais évoquer avec vous. Donc l'un des premiers modèles label sorti en 2009, c'est la Air Max One Chlorophylle qui ressort vendredi à 13h sur le site spécial. Je ne donnerai pas l'adresse pour avoir pas trop de concurrence. Vendredi à 13h, c'est Pata X Nike. Et derrière, tu as eu la Air Max One Purple Denim, la Denim Corps du Roi, où moi je crois que c'est l'une de mes préférées. Et il y en a quelques-unes à Strasbourg, de la Air Max One Cherrywood qui elle était sortie en 2010, qui est peut-être l'une des plus rares de toute cette gamme. Et là vraiment pour moi c'était une vraie collab, un vrai travail sur les matériaux, sur les colorways. Et plus récemment, il y a 2 ans, toute cette gamme de Air Max Wave. Exactement. Avec la petite vague qui changeait le mudguard de la basket. Il y en a une qui retient plus votre attention que l'autre sur ces anciennes collabs? Moi c'est les Denim.
Ouais, les Denim, effectivement, c'est donc forcément l'utilisation d'un matériau qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser sur à la fois une Max One mais aussi sur une sneakers, donc forcément ça fait la diff. Moi j'ai 2 waves, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir encore une fois ce travail un peu différent sur le mudguard, tout comme on peut avoir un travail différent sur le swoosh. Donc dès qu'on apporte quelque chose d'un peu nouveau, je trouvais ça cool, et en plus qualitativement elles étaient vraiment bien. Donc non, elles sont, c'est un travail qui est propre, hein, la chlorophylle. C'est très con, hein. Les gens vont te dire ouais, c'est une chaussure blanche et verte, mais
ouais, matériel dénime là, il est ouf.
Ce matériel et aussi le choix de ce vert qui est très particulier. C'est ouais, c'est vraiment propre. J'aime beaucoup ce qu'il fait.
Ben merci. Moi, je dois être d'accord avec lui. La dénime et la chlorophylle est vraiment cool aussi. Et non, franchement, toutes les collabs qu'ils font, c'est vraiment pas mal, hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein.
Ouais. Seb, tu veux intervenir? Tu
veux une petite dédicace à Samoura parce qu'elle kiffe aussi les chlorophylles.
Et elle a pas ma pointure.
Non,
alors c'est bon.
Bah pareil, je reste sur le déni, mais chlorophylle, j'aime bien aussi la celle-ci, mais je sais pas le nom.
C'est pas la Cherrywood.
Non, c'est celle-là avec Amsterdam et on voit la ville sur le talon.
Exactement.
Et je me souviens à l'anniversaire de la consigne pour les 1 an, il y avait le livreur de tarte flambée qui nous avait livré les tarte flambées avec cette paire au pied.
Oh putain.
Et Léo était choqué. Si ouais, on l'écoute, ouais. Ça lui rappellera quelques souvenirs.
On l'embrasse. Et toi, Jaime, qui est grand fan d'Air Max?
Hyper ravi, hein. Hyper ravi de revoir ce modèle qui est juste légendaire dans le milieu de la sneakers. Donc l'engouement va être très 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 fort, donc le 13, je sais pas le nombre de paires qu'ils avaient projeté de...
Bah 13, de 13, la 13 paires,
on sait pas.
Bon, faut être superstitieux du coup ce jour-là, et non, très content de voir ce modèle-là, j'espère que les autres reviendront aussi, parce que moi celle qui me fait vraiment l'œil, c'est celle qui est en collaboration avec l'artiste Para.
Ouais, voilà. Ouais, donc, elle était propre,
Pata voilà, Para. Voilà, je sais qu'il y a Julien, je crois, de Strass là qui l'a. Donc celle-là vraiment elle est incroyable. Si elle sort, je vais vraiment tout faire pour la voir.
Qui était sortie aussi en Friends and Family. Exactement. Avec un colorway inversé. Alors si on lançait le débat, et c'est un peu toi Jaime qui l'a soufflé, d'après vous, cette collab, cette réédition, c'est surcoté ou c'est sous-coté?
Alors moi j'ai beaucoup réfléchi quand j'ai lu ce que Jaime nous avait envoyé, et en vrai j'ai beaucoup de mal à répondre parce que j'ai déjà un problème de définition sur ce surcoté ou sous-coté. Finalement, c'est quoi la cote? C'est quoi la cote d'une chaussure? Qu'est-ce qui définit la cote d'une chaussure? Donc déjà, avant de dire surcoté ou sous-coté, on a besoin de comprendre c'est quoi la cote d'une chaussure.
En fait, on va vous faire une thèse.
Non, mais certains vont te dire la cote, c'est voilà.
C'est l'image peut-être
de StockX. C'est StockX. C'est ce qu'elle vaut, ce qu'elle ceci, ce qu'elle cela. Donc moi, pourquoi je trouve qu'elle n'est pas surcotée ou sous-cotée? Je trouve juste que l'histoire, le storytelling, il est incroyable. Parce que c'est 2 potes, 2 frangins, 2 bros qui kiffent la sneakers, qui viennent d'une culture du Suriname, qui ont un nom, Pata, qui veut dire godasse. Et de là, faire une collab avec le numéro 1 mondial de la sneakers dans un pays, on est en Hollande, on est à Amsterdam. Et tu vois, en fait, bah non, du coup, c'est pas surcoté. C'est classe, c'est au niveau où ça doit être. Tu vois, c'est comme si demain on décide de monter un truc et on vient nous voir, et mais bien sûr que non, ça sera pas surcoté, tu vois.
Tu veux faire le contradicteur?
Non, vas-y.
Alors moi, surcoté ou pas, je partirai pas sur ce débat. Je dirais surtout que c'est nécessaire en fait de faire revivre un petit peu ces mythes, qu'on soit pas simplement dans le commémoriel à se dire oh, c'était super avant, regardez les jeunes. Je pense que c'est important de le faire vivre qualitativement. Donc c'est pas des collabs qui vont sortir tous les deux ans. Donc moi je me réjouis plutôt de voir des collabs comme ça. Le vert et chlorophylle est absolument magnifique. C'est ma couleur. Non, moi je suis à 100% derrière la chlorophylle. La denim est bien aussi. Par contre la cherry wood sans moi. Le marron, bleu ciel, ouais, rose, ouais. Non, il y a un problème.
Ouais, c'est un peu différent, mais elle est très cotée. Alors, si on parle de code StockX, c'est pas une paire qui vaut très très cher là. À la revente, on est à 250-300 balles pré-release.
Là, tu parles du modèle qui va sortir.
Du modèle qui est voilà. réédité.
Mais le modèle de 2009.
9, ouais.
Voilà, celui-là par contre, ouais, c'est du 5 chiffres.
Mais alors, est-ce que tu tues pas le mythe à le faire ressortir?
Non, si. En fait,
il a tout de suite réagi.
Mais moi, il a dit si. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que finalement, tu vois, cette paire de 2009, je vais prendre l'exemple de mon fils qui a 16 ans. En 2009, peut-être qu'il a kiffé pas, peut-être qu'il était beaucoup trop jeune pour comprendre, etc., etc. Et aujourd'hui, à son âge, peut-être qu'il va kiffer et peut-être que c'est cool qu'il puisse avoir accès à ce produit-là. Et si dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on a de nouveau cette facilité d'accessibilité, imagine-toi si en fait Jordan,
exactement,
on avait arrêté Jordan 1, 3, 4, 5, 6 à l'époque, tu vois.
Exactement. Je suis entièrement d'accord avec vous, hein, c'est totalement sous-côté.
Moi, j'ai envie de comparer ça aux voitures, tu vois. Chaque génération, par exemple, a sa Golf.
Exactement.
On est sur un produit qui est devenu culte,
exactement,
mythique et qui perd pas pour autant.
Alors ça évolue parce que c'est un truc technique, c'est un truc. Mais là, la chaussure, moi je suis content qu'elle arrive, tu vois, pareil, toutes les 5, 6 ans, c'est bien. Tu
ouais,
vois,
ouais,
c'est...
Bah, moi je vous rejoins. Personne la trouve surcotée finalement.
Pour moi.
Ah.
Elle n'est pas sous-côté, elle n'est pas sur-côté. J'ai posé le débat parce que je sais très bien que c'est une question hein, qui attise un peu. Voilà. Voilà. Mais je suis d'accord avec Rich, hein, totalement. Donc, ouais, Shop légendaire, il ressort sa paire anniversaire. Moi, je dis bravo. Hein. Merci.
Après, voilà. Alors, on fait le bilan mardi prochain parce que là, moi, je suis hyper excité. Je te dirais non, elle est sous-côté. Enfin, on peut avoir accès à la paire. Moi, j'en rêve dans ma collection depuis des années et des années. C'était inchoppable. Et là, peut-être, je vais l'avoir. Mais je vous jure que si mardi prochain, j'ai pas eu. Déjà, j'ai pas eu la haute lavage, je vais être vénère. Et là, l'intro, ça va clasher.
Mais est-ce que le fait de là, quand tu l'auras, est-ce que tu auras toujours ce truc?
Parce non,
que
là, t'en la prochaine.
Ça fait quelques années, tu te dis, je vais l'avoir, c'est comme une Mac, par exemple. Quand tu auras ce Graal, en quelque sorte, moi, c'est ça.
Et ton appétit sera
est-ce que tu vas tuer un mythe
j'adore.
Ou est-ce que tu vas.
Quand tu posais cette question à Samuel Montelet, tu disais, c'est quoi ta paire
préférée? La prochaine.
Il répondait, la prochaine.
Exact.
Et c'est oui, on est dans cette addiction, évidemment. Mais cette pata, tu vois, on avait, je crois que c'était la dernière mission de la première saison, on avait Jacques Chassin qui était invité, et t'avais Alexandre et son cousin qui venaient parler des chaussettes, et il avait présenté cette pata chlorophylle que j'avais jamais eu en main, et voir ce travail sur le dénime vert qu'ils ont mis, ces matériaux qui étaient différents de toutes les Air Max, ça m'a fait vibrer. Et là, me dire que peut-être vendredi, s'ils sont assez d'accord de prendre mon argent, peut-être ça marchera.
Ça va être chaud, je pense. Hein.
Ça va être chaud. Ouais, ça va être
et après, chaud. Je sais pas l'historique, mais le logo sur la languette, ça se faisait beaucoup ça aussi à l'époque 2009.
À l'époque, non, clairement
parce
pas.
Que je sais qu'il y a Euf qui avait aussi son logo là, mais Pata, je crois que c'est
ouais,
un des premiers
là,
à avoir
ça. Un énorme Pata carré.
C'est le premier logo. C'est leur premier logo.
Tout à alors, fait. Tu vois, par contre, si on veut juste terminer sur Pata, je trouve que pour le coup, leur shop, lui, est surcoté. Parce que je suis allé, j'ai eu la chance d'aller sur Amsterdam trois fois en un an et demi. Et à chaque fois, je suis passé. Et le shop, il m'a pas fait vibrer. J'ai pas forcément trouvé un truc.
Tu parles des produits ou tu parles du design du shop?
Design du shop,
je parle des deux. Je parle même de produits. En fait, les trois fois où je suis allé, en fait, je suis ressorti sans rien.
Alors ça, est-ce que c'est pas le marché de la basket qui a beaucoup changé?
Même le textile, hein.
Ok,
tu vois, même sur l'appareil,
après c'est suite qui sort pas de l'ordinaire, ils ont des
ouais, j'ai pas trouvé ça. Alors, du coup, c'est peut-être moi qui ai mis Pata à un niveau d'excellence ou un niveau.
Est-ce que c'est pas là la question doit se poser là?
Exactement.
Est-ce que Pata est surcoté ou sous-coté par rapport à
ces produits? Exactement. Ouais.
Parce qu'après, je pense que tout aujourd'hui, tous les revendeurs indépendants, comme peut l'être un peu Pata, comme est Impact, subit ce que donnent les équipementiers et c'est soldat dans la demi-journée quasiment. Ouais, pour pas mal de paires. Ah. Donc finalement, tu vas deux jours après dans le magasin, bah, y a rien de nouveau, y a rien que tu peux pécho, parce que finalement, en fait, c'est les mêmes que courir, et c'est du général release. Ah. Donc ça sous-cote le magasin, mais je pense que la consommation et le mode de consommation qu'ils nous ont imposé fait que tu vas plus dans un magasin pour découvrir une paire. Exactement. Soit t'as vu qu'elle sortait tel jour à 9h et t'es devant Impact, bon, c'est 10h chez Impact, et tu l'as.
Et des fois que sur Ecom.
Voilà.
Et hein, oui, ah là là, va les gars. Putain, j'aurais pu prévenir, mec. Putain.
Mais ils ont prévenu, et j'ai cliqué, rien à faire.
Oh merde.
Et je voulais pas embêter Laurent, et de toute façon, elle devait être partie, ils ont pas dû en avoir beaucoup. Mais moi, je suis vénère après cette hot lava. Donc, si Nike m'entend, si Pata m'entend, vas-y, débrouille-toi.
Si André Agassi nous entend.
Débrouille-toi pour vendredi. Badji, ce que je vais te proposer, comme on n'aura pas le temps de présenter ta paire de Sana, tu reviens quand tu veux.
Avec grand plaisir.
Sans forcément être invité, tu peux être un chroniqueur, tu t'assois derrière un micro et on aura aussi l'occasion de présenter ça.
Ça fait trop bien de rencontrer des fans de sneakers.
Tu viens, on prend toujours l'apéro, tu viens, tu vois qu'il y a de la place, il n'y a plus de contraintes de confinement, on peut être plusieurs dans le studio.
Alors à très bientôt.
Ce sera parfait. Merci à tous, on était ravis. Il me reste 15 secondes juste avant de passer la main à Planète Racing qui vient parler de foot. C'était Sneak On Air pour l'épisode 2. On se retrouve la semaine prochaine.